Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Philippe Sansfourche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'ores et déjà, bonne année, on refait le match. 20e édition, première de l'année civile 2021. On souhaite du bonheur à tout le monde, la santé, bien évidemment. La fête, retrouver la joie, retrouver du monde dans les stades aussi très vite, le plus tôt possible. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite ardemment. À mes côtés ce soir, on a pris les meilleurs, hein, c'est normal, c'est le début d'année, donc on n'allait pas mégoter sur les moyens. C'est qui les meilleurs? C'est peut-être notre partenaire du Parisien déjà, non? Un grand suiveur du Paris Saint-Germain. C'était normal qu'il soit là ce soir.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Dominique Sévrac. Excellente année à vous. Un guide, une boussole dans l'histoire du foot quand il s'agit de précision. On appelle toujours Monsieur Xavier Barret. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et bonne année à tous les
auditeurs. Excellente année à vous. Une petite touche de fantaisie.
Ah, c'est lui.
Les grosses têtes, mais pas que. Le foot ici, on adore le retrouver le samedi à 18h30. Monsieur Florian Gazan, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et meilleure année, on va dire. Pas bonne année, hein, meilleure année.
Exactement. Et puis, un homme qui monte, un homme élégant, un homme qui s'impose parmi
vous
nous.
Vous n'avez pas mis votre web télé parce que là, je vais prendre un coup.
La chaîne L'Équipe RTL, David Aiello, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Philippe, ravi de vous retrouver. Meilleurs voeux à tout le monde.
Et une très très bonne année à vous également.
Philippe Sansfourche,
RTL, on refait le match.
Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Bonne année. Ici, c'est Paris.
Ici, c'est Paris. Mauricio Pochettino est donc officiellement arrivé. L'actualité fait bien les choses. Le Paris Saint-Germain nous a attendus. Mauricio Pochettino, donc officiellement le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Que faut-il attendre de lui mieux que Tourelle dès cette saison? Premier grand thème, évidemment, ce soir. On fera le tour de la question. On parlera ensuite du Mercato. Mercato et Brexit font-ils bon ménage? Il va devenir de plus en plus difficile de vendre des joueurs en Angleterre. Est-ce que c'est une catastrophe ou peut-être une aubaine pour nos clubs français? On va avoir l'occasion d'en débattre. Les gros, évidemment, le PSG, l'OM, Lyon, Lille, que vont-ils faire? Est-ce qu'il ne va falloir que vendre ou est-ce qu'on va avoir peut-être un petit peu l'occasion quand même de faire rêver les supporters et de bonifier les effectifs? Faut-il s'attendre aussi à la valse des stars en Europe? Alors peut-être pas dès cet hiver, mais en tout cas sur cette année, sur cette nouvelle année 2021, les Messi, les Mbappé, les Cristiano, et puis les stars montantes, Erling Haaland, est-ce que tout ce petit monde est susceptible de changer de crèmerie? On évoquera aussi, j'ai envie de vous entendre sur Monsieur Villas-Boas, qui a encore fait des déclarations assez fracassantes, assez musclées aux médias portugais. Et on peut se demander s'il n'est pas en train de nous faire une petite tourelle.
Ah,
c'est-à-dire.
C'est grave ça ou pas?
Pourquoi pas, voilà. Émission évidemment 100% interactive, sous la baguette de Dany à la réalisation. Souriez, vous êtes filmé. Diffusion intégrale, simultanée, les images sur RTL.fr ou sur l'application. Le podcast à retrouver très vite après l'émission. On n'oublie pas les réseaux sociaux. Pertinence, bienveillance, s'il vous plaît. Sans faute d'orthographe, c'est encore mieux. Relayé à l'antenne par.
Vous êtes exigeant, là.
L'excellent Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste. Baptiste nous entend pas, mais c'est pas grave, on va lui dire bonsoir quand même.
Il est en train de cuver,
là. Et on lui souhaitera une excellente année un tout petit peu plus tard. On est ensemble jusqu'à 20h, vous êtes sur RTL, ne changez rien.
Philippe Sansfourche,
RTL, on refait le match.
Alors messieurs, Pochettino est arrivé, il a un mois et demi, en gros, pour reprendre la tête de la Ligue 1, préparer le Barça, est-ce que c'est trop lui en demander ou est-ce qu'il faut attendre déjà une touche Pochettino d'ici au 16 février et à ce Barça-PSG? Dominique Sévrac.
Il
ne
faut pas rééditer l'épisode Carlo Ancelotti qui arrive à peu près à la trêve, au même moment, et qui laisse Montpellier filer alors que Antoine Comboiré laissait le PSG premier et qui laisse Montpellier être champion de France. Donc là, il y a un point, Paris Saint-Germain est à un point, on n'y a joué que 17 journées, hein. Les gens oublient qu'on n'a pas joué 19 journées, on n'est pas vraiment encore, il n'y a pas de champion d'automne qui sera un champion d'hiver. Et donc, prendre la tête de la Ligue 1, ça me paraît pas très difficile quand vous avez Neymar et Mbappé, ça sera un accident industriel. À s'affranchir du Barça, quand on voit le Barça d'aujourd'hui, même si c'est dans un mois et demi, franchement, déjà la valeur des deux effectifs n'est pas comparable. Le PSG est au-dessus et le Barça.
C'est une évidence pour vous, le PSG est au-dessus.
L'effectif, en tout cas, est au-dessus. Après,
Messi, Griezmann, bon, il n'y a plus Coutinho.
Oui, oui, mais bon, vous les voyez jouer, quoi.
Ils font
des matchs nuls au dernier moment avec des buts de Dembélé. Il y a trois joueurs qui surnagent. Il y a Ansu Fati, il y a Pedri et il y a Ousmane Dembélé. Mais sinon, le reste, même Messi est un petit peu à la cape parce qu'il est en fin de contrat, donc il se pose des questions. Donc je pense que ça, c'est pas le plus difficile. Là où on attend Pochettino, c'est si on a viré Tourelle, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait un problème sur le style de jeu et il y avait un problème sur les blessures. Donc là, maintenant, on veut pas qu'il y ait 10 joueurs blessés comme pour PSG Strasbourg le 23 décembre, 10 joueurs à l'infirmerie, et on veut enfin savoir comment le PSG joue. Parce que moi, depuis un an et demi, je ne savais plus comment le PSG jouait.
C'est intéressant parce que sur le premier communiqué, hein, sur l'annonce de l'officialisation de l'arrivée de Mauricio Pochettino, il a quelques mots dans sa voix. Hein, on devrait l'entendre dans la soirée un petit peu plus longuement sur les médias du club. Mais les premiers mots qui sont retranscrits à l'écrit, il parle justement de cette identité de jeu avec des notions, je crois, de mémoire de combat et offensive. C'est vraiment ça l'ADN du PSG, Florent Gazan ?
Oui, bah avec les joueurs en tout cas qui sont au club cette saison, notamment Mbappé, Neymar, Di Maria, c'est sûr que sur le papier, c'est une équipe quand même qui doit pencher plus vers l'avant que vers l'arrière. On a suffisamment de football défensif comme ça en Ligue 1 ou même en Europe pour avoir un peu de flamboyance. Après, on sait qu'avec Pochettino, ça va être un football très très exigeant physiquement, sur le pressing, sur le collectif. Et là, on l'attend, c'est aussi de voir comment il va intégrer finalement deux joueurs très individualistes, Neymar et Mbappé, avec neuf autres pour faire une équipe et un vrai collectif. Parce qu'on sait que Neymar et Mbappé sont à la fois quelque part la force et la faiblesse du Paris Saint-Germain quand tout ça n'est pas maîtrisé. Tourelle a réussi par moment à le faire, mais pas suffisamment. On attend aussi Pochettino là, et j'oublie une date quand même qu'il faut donner, c'est le 13 janvier. Le 13 janvier, il y a le trophée des champions, le match contre l'OM. Ça, c'est aussi un match qui symboliquement est important, donc il n'a pas beaucoup de temps.
Il a pas de temps, et en plus, moi je trouvais Dominique extrêmement positif. Alors c'est bien, c'est le début d'année, il est optimiste, mais il faut rappeler que le Paris, par rapport à ce que tu disais sur la Ligue 1, sur le fait que quand même il devrait y arriver assez facilement, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Pour commencer, là, le Paris Saint-Germain a 4 matchs à jouer en 11 jours. Donc déjà, c'est quand même un premier... Quand on sait l'état physique dans lequel était l'effectif parisien, et effectivement, il y a ce fameux match qui symbolique...
Alors ça va être une vraie question aussi. Est-ce que Thomas Tuchel, sans l'accuser de quoi que ce soit, n'a pas un petit peu forcé le trait depuis 6 mois, il ne nous parle que de ça. L'état physique. On sait que c'est un problème général dans le football européen. Mais on avait l'impression qu'au PSG, c'était... multiplié par 10.
Moi, j'étais plutôt... je lui donnais crédit là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il l'a beaucoup répété, mais je pense que l'enchaînement qu'a eu le Paris Saint-Germain, qu'aucun autre club en Europe n'a eu, à savoir la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions, donc qui s'est terminée très tard, et l'enchaînement en championnat, ça s'est arrivé pour aucun autre club. Et on voit malgré ça que même les autres clubs qui n'ont pas eu cet enchaînement ont connu beaucoup de blessés. Donc je trouve qu'effectivement, il a eu ça à gérer, c'est une réalité. Il y a eu, je crois que c'est 6,5 blessés en moyenne par match. Donc c'est une réalité. Est-ce que ces 10 jours de coupure, en plus avec une reprise, on rappelle que les joueurs parisiens reprennent demain l'entraînement avec un premier match qui se...
Ça, c'est pas sérieux, par exemple.
Trois jours derrière, ça c'est Tuchel qui l'avait prévu.
Bah oui, c'est pas sérieux.
Peut-être, mais en tout cas, ça revient à Pochettino, et pour lui, c'est un vrai défi aussi ça. Enfin, comment est-ce qu'il va gérer ça? Donc, moi, je suis assez inquiet là quand même, parce que ce mois de janvier-février, tu rappelais que Montpellier avait filé, je pense que le Paris Saint-Germain va pas pouvoir également se permettre de laisser filer Lille. En plus, là, ils sont plusieurs, donc ça va être compliqué.
Alors, avant de donner la parole à Xavier Barret, j'aimerais qu'on salue quand même notre ami Baptiste Durand sur les réseaux, parce qu'il est, en fait, il était tellement plongé sur la toile.
Bien sûr.
J'imagine, Baptiste,
c'est
bonsoir.
Geek. Ne mentez pas aux auditeurs, c'est un gros problème technique que nous avons rencontré en régie.
Non, mais je vous ai couvert et puis voilà le résultat.
Il est trop honnête pour le football.
J'imagine que ça brasse un petit peu sur les réseaux et que l'arrivée de Mauricio Pochettino va pouvoir nous donner déjà une petite tendance dans quelques minutes sur l'enthousiasme ou pas des supporters. Xavier Barret.
Oui, alors en fait, c'est presque deux objectifs contradictoires que vous avez évoqués. Parce que avoir des résultats et notamment se qualifier face au Barça en Ligue des Champions, ça me paraît être la priorité. Faire du beau jeu, on attend tous effectivement le Pochettino qui a créé ce Tottenham séduisant qui est arrivé en finale à la Ligue des Champions il y a 2 ans. Mais il faut un peu de temps. Et à l'évidence, il ne l'a pas. Donc dans l'immédiat, quand il évoque d'ailleurs les valeurs de Grinta, de combat, etc., ça va être pour remettre tout le monde dans le sens du jeu, mais surtout dans le sens de la combativité, qu'il soit beaucoup plus impliqué que ce qu'on peut voir parfois, notamment lors des matchs de Ligue 1, afin d'atteindre ce premier objectif, passer le Barça. On sait d'ailleurs qu'à Doha, l'objectif numéro 1 pour le PSG, ce n'est pas la Ligue 1. Bon, bien sûr, ils doivent être champions, mais c'est la Ligue des Champions. C'est l'objectif que veulent absolument atteindre les dirigeants qataris. Ils n'en ont pas été loin la saison dernière, mais ils ne l'ont pas atteint. Donc ça va être de toute façon l'objectif numéro 1, la qualification contre
Mais
Barça.
La Ligue 1, c'est quand même c'est implicite. Le fait d'être. Ce serait quand même une énorme tâche de ne pas terminer.
Oui, mais ce que
en tête de la Ligue 1.
Ce que rappelait Dominique Cévrac avec la mésaventure d'Ancelotti lorsqu'il arrive à Lille.
Est-ce qu'on peut comparer les
époques? C'est pas les mêmes joueurs quand même.
Ça a beaucoup changé. Ça fait 10 ans.
Je pense que le niveau d'exigence, enfin aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a enchaîné plusieurs quadruplés.
Oui.
Donc je veux dire, il y a une habitude de l'excellence, j'ai envie de dire, dans les résultats. Tu peux pas te défaire de ça. Enfin, je veux dire, ne pas être champion de Ligue 1, ça serait un échec industriel,
Feu Gérard Houllier sur le style disait qu'il faut 2 mois pour transformer une équipe, 2 mois pour l'améliorer et 2 mois pour la déconstruire. Qu'une super équipe, un Liverpool de club peut mettre 2 mois à complètement voler en éclats parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a un grain de sable. Mais aussi une équipe qui est un peu moribonde, ce qui pour moi était le cas un peu du PSG. J'ai vu des victoires contre Lorient, contre Strasbourg. Bon, c'est normal, mais dans le jeu, c'était une pauvreté incroyable. Il faut 2 mois pour transformer une équipe. Donc 2 mois, ça nous emmène un peu après le 8e de finale contre Barcelone. Donc ça, c'est un peu inquiétant, mais on y sera presque. Donc il a quand même un peu de temps. Après, sur ce qu'a dit Florian, le pressing, moi, ce problème, c'est que c'est quelque chose que j'ai entendu quand Emery et quand Tuchel sont arrivés. On m'a parlé de pressing, d'intensité.
Oui, et contre-pressing, etc.
Et je ne l'ai jamais vu, ou très peu par moment.
Le Gegenpressing.
Il y a 4-0 contre Barcelone avec Emery. Il y a le match de la victoire de Tuchel à Manchester United 2-0. Il y a des bons matchs. Mais sur la durée, ça n'a pas existé.
Oui, non, mais c'est sur la durée. Tuchel, on est tous d'accord, je pense, pour dire que les 6 premiers mois ont été plutôt très bien en termes de jeu. On avait rarement vu le PSG aussi bien jouer depuis Laurent Blanc. Après, ouais, il y a toute la problématique. De toute façon, Pochettino va avoir un autre problème. C'est pas l'effectif, c'est le club, c'est la structure du club. C'est un club extrêmement politique, très compliqué. C'est une machine à broyer les entraîneurs. Alors là, tout est nouveau, tout est beau. Pochettino arrive, va peut-être avoir un ou deux joueurs cadeaux pour l'arrivée. Mais après, il va se réheurter aux mêmes problématiques, les agents, les transferts, les machins, les temps. Doha, le siège, et c'est là où il va être attendu, et c'est là où ça va être très compliqué pour lui, même s'il connaît bien le club parce qu'il est allé, etc., etc. Ah,
c'est plus le même club non plus. Hein.
C'est plus le même
ça
club.
A bien changé.
Il va retomber dans les mêmes problématiques. Le naturel, malheureusement, risque de revenir au galop.
Est-ce que le risque, justement, n'est pas pas la rupture, mais de ne pas être suffisamment proche de ses joueurs cadres? On les connaît, il n'y a pas besoin de les citer. C'est les deux stars, Neymar et Mbappé. On reprochait un peu à Tuchel la calinothérapie, entre guillemets, sauf qu'il s'est quand même mis les deux joueurs dans la poche et sans monter l'un contre l'autre, ce qui est quand même aussi
parce que les deux sont
important.
Parce que les deux sont potes. Hein. Les deux sont vraiment potes.
Oui,
sont vraiment amis.
Évidemment. Mais est-ce qu'il doit déconstruire un petit peu ça pour les remettre individuellement un petit peu plus
sa réputation,
au travail,
c'est de fédérer,
ou pas
hein. Sa réputation. Mais après, on verra si ça si la greffe.
Mais alors, vous me dites, il faut qu'il mette tout le monde au boulot. Les entraînements sont deux fois plus durs. Il faut fédérer.
Ça fait une
de pouvoir se faire avec des amis.
C'est d'avoir un collectif. C'est-à-dire qu'au PSG, les stars sont au-dessus du club. Neymar peut inviter 500 personnes chez lui ou pas. On comprend pas très bien, mais
visiblement, ils étaient pas 500.
On n'était pas invités.
À la fin, ils étaient pas 500, mais à un moment donné, moi, je crois, les journalistes brésiliens, ils devaient être 500. On a l'impression que Neymar est toujours au-dessus de tout, de l'institution, du PSG, c'est lui la star, c'est lui le plus important. Pourquoi pas? Mais sauf qu'à un club, ça ne marche pas comme ça. Et ça peut marcher si on est Messi, si on est Cristiano Ronaldo. Il a pas de ballon d'or, Neymar, donc il redescend sur terre. Le plus important, c'est le Paris Saint-Germain. Et ça, j'aimerais que Pochettino leur fasse rentrer dans la tête que c'est l'équipe
gagné,
qui
quoi,
compte.
Il va falloir pour lui parler à Neymar, lui dire qu'il n'a pas gagné le ballon d'or.
Ça veut cliché, la star, c'est l'équipe, quoi. La star, c'est pas Neymar.
Ce que pointe Philippe, à savoir, en gros, la légitimité de l'entraîneur, pour moi, c'est quelque chose de capital. Alors c'est vrai qu'on avait vu Tuchel, je pense d'ailleurs qu'il n'avait pas vraiment le choix quand il est arrivé. Il est passé par cette calinothérapie et ses méthodes douces, parce que quand il est arrivé, quand même, c'était personne. Pour les joueurs, je pense qu'ils se sont dit, mais il sort d'où celui-là, quoi. Pochettino, c'est peut-être un petit peu plus légitime parce qu'il y a quand même une finale de Ligue des Champions, mais c'est pas non plus
une carrière de joueur aussi. Quand même.
Il y a une carrière de joueur, mais je pense que pour des joueurs de la catégorie de Neymar ou Mbappé et compagnie, il y a un niveau d'exigence en termes de légitimité qui est très très élevé, et je suis pas sûr que pour eux, Pochettino représente ça d'emblée. Après, peut-être qu'il va les séduire par autre chose, par son discours,
David, à part
son Klopp, management.
Mourinho et Guardiola qui a priori sont pas disponibles, et Ancelotti qui veut pas revenir. Il y a qui pour l'imposer, quoi.
Donc
à un moment donné, faut qu'ils acceptent des Thiago Motta, des Allegri, parce que je sais que le vestiaire voulait pas d'Allegri. Moi, je veux bien. Mais là, fait deux finales.
Ce que tu pointais aussi, ça renvoie également au rôle de Leonardo en particulier, puisque c'est lui qui est quand même censé représenter l'institution au quotidien. Et on peut quand même, je pense, globalement être déçu par ce qu'il a apporté depuis son retour.
Vous parlez de Leonardo, tiens, est-ce que ça peut être un souci, le fait que, on le sait, il s'en est jamais caché, enfin pas officiellement, mais tout le monde le savait, que Allegri était l'homme qu'il souhaitait installer après Thomas Tuchel. Manifestement, il n'est pas parvenu à ses fins, Leonardo. Est-ce que ça peut être un souci d'emblée dans ses rapports avec Mauricio Pochettino?
Il a gagné à 50%. Il voulait un autre entraîneur que Tourelle. Il l'a eu, un autre entraîneur, mais il n'a pas eu celui qu'il voulait. Donc on peut voir le verre à moitié plein ou moitié vide, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que son influence, elle est quand même importante dans le sens où il a eu la tête de Tourelle, c'est ce qu'il voulait.
On va faire une petite pause et puis après, on va parler d'un... Bielsa. Bielsa, c'est on nous vend aussi Pochettino comme un disciple de Bielsa.
Ouais.
Est-ce que c'est pas un piège, ça, pour lui ?
Philippe Sanfourche,
RTL, on refait le match.
Philippe Sanfourche,
RTL, on refait le match.
On refait le match, on est ensemble jusqu'à 20h avec Xavier Barret, Dominique Sévrac, Florian Gazan et David Aiello. Avant de parler de Bielsa, tiens, qui va peut-être revenir dans les conversations au quotidien, mais du côté du camp des Loches cette fois-ci. Premier détour par les réseaux sociaux, Baptiste Durieux, qu'est-ce qu'on pense de l'arrivée de Mauricio Pochettino ?
Absolument, message d'Alexis pour commencer. Pochettino a le sourire, la bonne année, tout ça. Ici c'est Paris, c'est bien. Mais dire que dans 6 mois, il va envoyer balader des journalistes, il va attraper une tourellite aiguë. Message d'Alexis, en fait, tu ressembles un peu à tous les autres. C'est-à-dire qu'on est ravis, mais on est assez mitigé aussi, comme Johan. Un merveilleux entraîneur, jeune, enthousiaste, un style identifié, pourvu qu'il réveille cette équipe, quitte à laisser certains joueurs qui ne suivraient pas la cadence sur le côté. La révolution arrive, mais ce club, cette structure aura sa peau. C'est inévitable. Et puis, message de Tristan, un homme qui a sous ses ordres vu Lucas Moura marquer un triplé en demi-finale de Ligue des Champions, a forcément de grandes qualités, mais des qualités au service d'un club bancal comme Paris. Je suis pas sûr que le grand disciple de Bielsa qu'il est puisse faire quelque chose.
Eh ben voilà, on y arrive. Bielsa, Xavier Barret.
Oui, mais moi je voudrais simplement dire que ce qu'il a fait à Tottenham, on l'oublie parfois, c'est assez extraordinaire parce qu'il a sorti un club de la quasi-anonymat et en a fait un pensionnaire du Big Six puisque le Big Four est devenu un Big Six avec l'arrivée notamment de Tottenham. Donc est-ce qu'il peut faire la même chose à Paris ? Bah, le contexte est différent puisque Paris est déjà au sommet, donc on l'attend sur la scène européenne. Maintenant, ramener du jeu, comme vous le dites, ce jeu qu'il a appris à l'école Bielsa, c'est ce que tout le monde attend à Paris. Aujourd'hui, que Paris soit champion, ça paraît presque une évidence. Qui gagne la Ligue des Champions, c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui ont les moyens. En revanche, qu'au Parc des Princes, on ait un vrai spectacle, oui, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on n'a plus, Florian disait depuis le début de Tourelle, oui, et puis même en remontant à Laurent Blanc. Donc ça va être sa mission, mais pour moi, ce n'est pas sa mission immédiate. Mais le fait qu'il ait cet héritage de Bielsa, cette philosophie de jeu, oui, bien sûr, évidemment, il a tout pour arriver à installer ça à Paris.
C'est le petit plus. Florian Gazan, vous évoquiez tout à l'heure sa carrière de joueur aussi, ouais. Qui était importante, plus que son entraîneur. Et puis il y a son passage déjà, en tant que joueur, au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une nouveauté pour un nouvel entraîneur. J'ai envie de dire, Leonardo n'est plus tout seul gardien du temple, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité aussi, Pochettino, par rapport à l'institution, à l'attachement au club.
Ça, c'est sûr que ça va lui faire marquer des points en plus aux yeux des supporters. C'est important quand un entraîneur arrive qu'il se mette le public dans la poche. C'est sûr qu'il y a, voilà, il y a cette filiation. On a souvent reproché au Paris Saint-Germain d'avoir oublié qu'il avait existé avant 2011. Avec Pochettino, effectivement, c'est le retour à l'avant. C'est l'époque Luis Fernandez. Et c'est intéressant. Sur le côté bielsiste de Pochettino, j'aimerais quand même modérer un tout petit peu le truc. C'est-à-dire que c'est pas des équipes totalement déséquilibrées avec Pochettino. L'année où il a flambé, quand même, Tottenham était meilleure défense du championnat. Or, on sait que les équipes de Bielsa ont tendance quand même à marquer beaucoup, mais encaisser énormément. Donc, il est un peu bielsiste sur le pressing, sur certains préceptes de jeu. Mais enfin, quand même, c'est quelqu'un qui a pas oublié qu'il était défenseur de formation, qu'il a joué défenseur et qui joue quand même la sécurité un peu. Donc, c'est un petit peu différent de Bielsa.
Et sur l'image qu'il a lui-même dit, que
David Aiello,
il a mis un petit peu de distance avec cette école-là. Je voulais rebondir également sur ce qu'a dit l'un des auditeurs là qui nous suit sur Twitter sur le fait que dans 6 mois, il allait certainement être atteint de tourellite et disjoncté en conférence de presse. Pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus Pochettino, je vous recommande la série documentaire qui est passée sur Amazon, moi c'est ouais. Le diffuseur, qui s'appelle Honor Nothing. Alors Pochettino apparaît peu parce qu'en fait c'est la saison où il se fait licencier, mais sur les épisodes où on le voit, il est quand même assez intéressant parce que pour le coup là, cette série elle est intéressante, on est vraiment au cœur du club et on voit vraiment le fonctionnement du club de l'intérieur, donc on découvre quand même un petit peu son management. Et il y a une séquence où en fait on le voit, alors ça c'est une séquence qui est publique, c'est en conférence de presse et c'est le match avant son licenciement où un des journalistes lui pose la question, mais alors c'est peut-être votre dernier match. Et justement, on peut faire le parallèle là justement avec Thomas Tourelle, puisque c'est une situation qu'on a vécue. On a vu Thomas Tourelle extrêmement nerveux. Et là, la réponse de Pochettino, c'est avec un grand sourire. On sent vraiment que, en tout cas, la pression, en tout cas, le dévore pas. Alors, c'est pas forcément le même environnement. Il y a peut-être pas les tensions politiques qu'évoquait Thomas Tourelle dans sa dernière interview aux médias allemands.
Il faudra voir l'épreuve du feu, quoi.
C'est vrai que là, il y avait quelque chose où il était vraiment sous pression parce que son licenciement, son renvoi était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines. Et c'est avant un match très important. Et on voit quand même que voilà, il arrivait à composer avec ça et à pas disjoncter.
Avant de glisser sur le prochain gros dossier, c'est-à-dire le mercato, le Brexit et toutes les incidences que ça va avoir sur les clubs français les semaines et les mois à venir, justement dans cette trame-là, sur les dossiers Mbappé-Neymar. On sait qu'on est en pleine période de renégociation pour une éventuelle prolongation des deux. Est-ce que l'arrivée de Pochettino peut, d'une manière ou d'une autre, influer positivement sur le dossier ou pas ? Dominique Sévrac.
C'est très compliqué. Neymar veut rester au Paris Saint-Germain. C'est son désir, il est bien.
Il est bien payé.
Il gagne plus de 35 millions d'euros par an. S'il prolonge, il gagnera encore plus. Il n'y a aucun club au monde qui peut lui proposer ce qu'il va gagner. Même pas, sans doute, Manchester City. Donc, parce qu'il est bien en France, parce qu'il est bien financièrement, voilà, il a vu qu'il pouvait aller en finale de la Ligue des Champions, certes dans un format différent, mais il a vu que c'était possible. Donc lui, ça me paraît pas le plus compliqué, même si, à travers sa petite phrase à Manchester, j'aimerais bien rejouer avec Messi, il a mis un petit coup de pression. Comme Mbappé, il veut qu'il y ait une structure sportive. Ça, c'est il veut que le club grandisse. C'est un petit club, le Paris Saint-Germain, quand vous venez de Barcelone, je veux dire. Hein. C'est un grand club français, mais c'est pas Manchester United, pas Barcelone, c'est pas le Real Madrid, c'est pas le Bayern. Donc il voudrait un club un peu plus... voilà, qui est un peu plus structuré, un peu plus d'épaisseur, et une équipe sportive avec des joueurs un peu à son service. Et voilà, que ça court un peu pour lui.
C'est pas exactement ce qui était le cas jusqu'à parler de Messi en même temps.
Non, mais c'est ça l'idée. C'est,
moi, mais en même temps, il a également dit que lui était prêt à se mettre au service de Messi.
Oui, mais on parle à son entourage et c'est ça l'idée qui voilà. Et on sait qu'Mbappé aussi conditionne un peu le fait de rester son maintien au Paris Saint-Germain s'il y a une équipe un peu compétitive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'entre guillemets, hein, c'est pas ça qu'ils disent dans les négociations, mais pas des Kerrer, pas des Diallo, pas des Kurzawa.
Tu as tous les joueurs de Tourelle, tu veux dire ?
S'ils nous écoutent, bonsoir à eux. Voilà. Bonne année.
Les joueurs de complément. Bah tiens, justement, la transition est toute trouvée puisqu'on parle souvent du mercato d'hiver comme un mercato d'ajustement, de complément. Mais j'ai envie de dire que ça, c'était un petit peu la vision qu'on avait auparavant, qui était purement sportive. Maintenant, on a l'impression que l'enjeu, il est essentiellement financier, c'est-à-dire rattraper financièrement. Le football français, notamment, est exsangue parce que, on le sait, crise sanitaire plus Media Pro qui vient se greffer là-dessus. Habituellement, ce marché, qu'il soit estival ou hivernal, dans le sens de l'Angleterre où se font le plus de transactions, la France est le premier pourvoyeur de talents. Et là, il y a un petit caillou dans la chaussure qui va arriver avec le Brexit, puisqu'il y a un système assez complexe là, de permis à points, permis de travail à points, où en gros, on va essentiellement favoriser les transferts de joueurs internationaux. Ça veut dire que nos clubs de Ligue 2, nos petits clubs de Ligue 1, vont avoir plus de mal à vendre leurs joueurs en Angleterre. Est-ce que, sur le moment, c'est un problème parce qu'il y a moins de rentrées, mais est-ce que c'est pas une aubaine, ça, pour le foot français, de garder un petit peu plus de joueurs ?
Mais ils vont pouvoir les garder, mais en les payant moins cher surtout. Parce que, effectivement, ce qui se passe depuis de nombreuses années maintenant dans le football professionnel français, c'est qu'on fait un budget dans lequel on intègre des ventes de joueurs, qui la plupart du temps ont lieu. Et évidemment, vous l'avez rappelé, majoritairement vers le marché anglais, qui, que ce soit la Premier League ou le Championship, est effectivement le marché le plus riche au monde. Mais ce qui va se passer là, c'est pas tellement le système du permis de travail qui existe déjà pour les joueurs d'autres continents et d'autres pays. C'est qu'effectivement, la Brexit sort de... Comme l'Angleterre sort de l'Europe, maintenant les citoyens de l'Union européenne n'ont plus la possibilité d'accéder directement au marché anglais. Voilà, donc ça va limiter effectivement les transferts pour les Français notamment. Et il faut aussi voir que du côté de l'Angleterre, si les clubs de Premier League restent richissimes, ceux du Championship, donc qui étaient les principaux acquéreurs pour ce marché des joueurs de deuxième rang, si on peut plus employer ce terme, est en train de se tarir. Il y a beaucoup de clubs de Championship qui sont en difficulté. Pour plein de raisons, parce qu'ils ont changé aussi le mode de répartition des droits télé entre la Premier League et le Championship. Avant, il y avait un espèce de retour d'aide, un peu de solidarité qui a été petit à petit supprimé. Donc, du coup, effectivement, les clubs de Ligue 2, par exemple, vont plus pouvoir vendre leurs joueurs comme ça en Angleterre. Ils vont devoir chercher un relais par la Ligue 1. Évidemment, c'est tout bénéfice pour le football français, à condition que ces clubs français puissent les payer. Or, actuellement, on est confronté à une Ligue 1 qui n'a plus de diffuseurs. Et dont certains clubs, là je regardais le tableau qui avait été très bien fait par nos amis du Parisien il y a quelques semaines. Vous avez
un club comme
Nîmes, c'est 75,2% du budget qui est assuré par les droits télé. Donc à partir du moment où vous n'avez plus d'argent, qu'est-ce que vous faites? Mais il faut que quelqu'un vienne acheter vos joueurs. Et pour le moment, effectivement, il n'y a pas que la barrière du Brexit qui va limiter l'accès au marché anglais.
Moi je suis inquiet pour l'équipe de France, parce que N'Golo Kanté est devenu N'Golo Kanté parce qu'il a quitté Caen pour 5 millions d'euros. Ça n'est pas à l'époque, aujourd'hui ça nous paraît ridicule, 5 millions d'euros. Il a quitté Caen pour aller à Chelsea, quoi.
Ben oui.
Et je me demande si le futur N'Golo Kanté...
À Leicester d'abord.
Ouais, Leicester, pardon. Ouais. Je me demande si le futur N'Golo Kanté pourra partir, devenir ce qu'il est, la dimension qu'il a acquise en Angleterre. Et ça, c'est pour l'équipe de France. Je vous rappelle qu'on a été champion du monde en 2018 avec un seul titulaire évoluant en Ligue 1, et Kylian Mbappé. Tout le reste évoluait majoritairement en Angleterre, les Hugo Lloris, les Paul Pogba, les N'Golo Kanté.
Alors on est d'accord sur l'expérience qui va être emmagasinée en allant à l'étranger, mais N'Golo Kanté, par exemple, Florian Gazan, s'il avait signé au Paris Saint-Germain ou à l'OM, il aurait peut-être progressé de la même manière.
Oui, ça, je pense effectivement que sur certains joueurs, quand même, le fait d'aller dans les très grands clubs français qui sont quand même aujourd'hui, voilà, si vous allez jouer à l'OL, à Lille, à Paris, à Marseille, vous êtes un joueur, ce qu'on appelle un prospect, vous pouvez quand même énormément progresser. Bah, on le voit d'ailleurs avec les joueurs que Lille fait travailler pendant un ou deux ans et qui repartent avec des grosses valeurs.
Des champions,
on voit comme Osimhen. Non, mais je veux dire,
c'est des champions. Lyon la joue pas cette année.
Oui, enfin Lyon la jouera peut-être l'année prochaine, Dominique. Et il peut avoir un accident de parcours. Enfin, globalement, ces clubs-là sont maintenant installés au plus haut niveau de la Ligue 1 régulièrement. Donc, il y a quand même moyen pour des joueurs de progresser là-bas. On le voit notamment quand même pas mal de joueurs qui partent à l'étranger sont passés 2-3 ans en Ligue 1 et ont énormément progressé. C'est aussi pour ça qu'ils partent. Donc, on a la capacité de le faire. La problématique va être effectivement de vendre. À qui vendre, combien vendre, sachant que là, on vient de s'encaisser quand même Mediapro, le Covid et le Brexit. Ça fait quand même, c'est un rasoir à trois lames.
Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi, David Aiello. Si on doit revendre les droits du championnat, il faut qu'il soit sexy, ce championnat. Donc il faut aussi des équipes sur lesquelles on peut s'identifier, avec des joueurs qu'on connaît. Aujourd'hui, le supporter de Nantes, de Saint-Etienne, de Nice, il connaît pas ces joueurs.
Ouais,
on sait pas qui c'est, tous les 6 mois ça change.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais par rapport à cette identification et à l'attractivité de la Ligue 1, notamment pour son prix de vente, moi je suis assez inquiet. Alors déjà je rejoins Dominique sur le fait que pour l'équipe de France, je pense qu'en termes de post-formation, je pense que les clubs français sont pas bons globalement, et je le rejoins complètement. C'était déjà vrai en 98, hein. 98 on sait que c'était du côté de l'Italie que c'était passé, mais c'est déjà le cas. Ensuite là, ce qu'on peut se dire, ou ce qu'on peut prévoir peut-être ou anticiper, c'est le fait que comme les clubs anglais vont quand même garder une manne financière importante. Chelsea, par exemple, a fait des bénéfices à hauteur de 36,5 millions la saison dernière, la saison 2019-2020. Donc, ils ne vivent pas la crise de la même manière que nous, quand même.
Et c'est interdit de recrutement aussi.
C'est vrai aussi. Mais globalement, les clubs anglais, évidemment, ils ont une manne des droits télé, eux, qui est tombée et qui est quand même beaucoup plus conséquente. Donc, les budgets qu'ils ont et qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser sur les joueurs mineurs, parce qu'ils n'ont plus le droit, et sur toute une catégorie de joueurs, ils vont les reporter sur les gros joueurs. Moi, je suis un peu inquiet pour Lyon, peut-être même Paris dans une certaine mesure, Marseille et Lille, sur leur capacité à garder leurs meilleurs joueurs, parce que comme les clubs anglais ne vont plus pouvoir s'attaquer au ventre mou un petit peu de la Ligue 1, ça va monter vers le haut. Donc, j'ai un petit peu peur pour ça.
Est-ce qu'ils auront l'argent, David, aussi, sont quand même pas...
Moins que nous,
oui.
Non, mais c'est pas justement, c'est plutôt bien pour la Ligue 1 si les clubs anglais ne viennent chercher que les très bons joueurs, quitte à effectivement les chercher, les payer plus cher.
On perd déjà
ça veut dire que les clubs de Ligue 1 vont pouvoir maintenant aller chercher des bons joueurs, soit en Ligue 2, soit dans le ventre mou de la Ligue 1, qui actuellement préfèrent aller signer des contrats en Championship. Combien de fois, moi, quand j'étais à France Football, on appelait des gars, ils disent je préfère jouer en Championship plutôt que de revenir en Ligue 1 parce que je suis plus payé en Championship.
Oui, mais donc, Xavier, on n'a déjà pas beaucoup de stars. Si elles partent,
on les garde après 19h. Dominique Sévrac, Xavier Barret, Florian Gazan, David Aiello. On se retrouve après les informations. On va continuer de parler mercato et on va essayer de voir si nos clubs sont en capacité peut-être d'attirer quelques pépites sur ce mercato hivernal.
Philippe Sanfourche,
RTL, on refait le match.
Philippe Sanfourche,
RTL, on refait le match.
On refait le match jusqu'à 20h pour cette nouvelle année qu'on vous souhaite évidemment douce et formidable. J'espère que vous avez bien réveillonné en étant évidemment raisonnable, hein, geste barrière et tout ce qui s'ensuit, et que vous êtes parfaitement calé à l'écoute d'RTL pour eh bien, ouvrir cette belle année, cet agenda 2021. Justement, cet agenda 2021, on va en parler dans un instant, mais j'aimerais qu'on fasse un petit détour par les réseaux sociaux avec l'ami Baptiste Durieux. Le mercato, tiens, est-ce que ça fait peur ou est-ce que ça enthousiasme nos auditeurs?
Ça fait plutôt peur. Le message de Rémi, qui apparemment pourrait être directeur sportif à l'OM, selon ses dires, nous dit un neuf à l'OM, je l'aurais trouvé depuis bien longtemps, tant de valeur sûre en Ligue 1 qui ferait tellement de bien à Marseille. Il pose des questions ensuite. Que fait Andy Delors à Montpellier? Que fait Abdou Diallo à Strasbourg? Moussa Dembélé qui cire le banc à Lyon? Ou Mba Niang à Rennes? Ou même Boulaïdia du stade de Reims? Plein de références en Ligue 1 et de bonnes opportunités à saisir. Et puis message de Julien cette fois sur le mercato lyonnais. Lyon a décollé après la fermeture du mercato. Il ne faut donc pas casser la dynamique pendant ce mercato hivernal. Garder l'effectif complet jusqu'au mois de juin, c'est vital.
Merci beaucoup Baptiste, vous continuez à nous envoyer évidemment tous vos petits messages, vos interrogations, vos coups de gueule. Sur le compte Twitter RTL Foot, très bon compte alimenté et organisé par l'ami Baptiste Durieux. Alors on le disait, 2021, année particulière, 2020 l'était déjà, mais là il y a l'addition des problématiques qui fait qu'on peut s'attendre, pourquoi pas, à parfois une redistribution des cartes ou à quelque chose qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On va commencer par la Ligue 1, puisqu'on parlait justement de Lyon. On évoquait peut-être cette année ou jamais. Est-ce que pour vous, déjà, tout simplement, il y a une possibilité pour que le Paris Saint-Germain ne soit pas champion cette saison? Est-ce qu'il y a une vraie possibilité?
Ah bah, clairement, déjà, on le voit dans le classement. D'habitude, à cette époque-là de l'année, ils ont en moyenne 7, 8, 9, 10 points d'avance. Ils ne les ont pas, ils ne sont même pas premiers. Ils ont cette année des équipes qui leur collent aux fesses et qui sont très structurées et très fortes. Lyon, effectivement, avec cet effectif pour jouer la Ligue des Champions, qui ne la joue pas, donc il y a largement le temps de se régénérer et notamment d'être frais physiquement, qui est un des gros problèmes de Paris, parce qu'on parlait de ses blessés. Là, sur les 10 jours de vacances, ça ne va pas régler le problème. Donc, on va continuer à avoir cette suite de saison très compliquée pour Paris, avec sans doute des blessés, des joueurs absents, et en face de ça un Lyon en pleine bourre, un Lille qui est sur une belle saison où on sent que tout tourne bien et qu'ils peuvent aller assez loin, plus Marseille qui joue comme il joue mais qui est quand même toujours là avec ses deux matchs de retard. Donc il y a quand même un gros peloton.
Il faut se mouiller à un moment donné quand même.
Moi je pense que cette année Lyon peut être champion et pas Paris, parce qu'encore une fois on parle aussi de ce 8e de finale de Ligue des Champions. S'ils sont éliminés, ce qui est possible, ça va être encore une nouvelle fois une déflagration. Ça va suragiter le club. On l'a vu après l'élimination contre Manchester, ils sont complètement disparus de la circulation. Je pense que c'est une année, en tout cas les autres doivent croire vraiment que c'est possible et peuvent le faire.
Tout le monde voit Lyon?
Aucune inquiétude pour moi.
Clairement, Lyon, ouais, pour Dominique, Paris.
Aucune inquiétude. Trois clubs concurrents avec trois entraîneurs en fin de cycle, en fin de contrat, ou qui vont être démis de leurs fonctions. Rudy Garcia, André Villas-Boas.
Donc ils sont démotivés là.
Christophe Galtier. Donc ça va créer des problèmes. On a parlé du mercato de Lyon. Dans un mois, peut-être qu'on dira le contraire sur Lyon. Il n'y aura plus à voir.
Rudy Garcia, c'est sûr, il ne restera pas.
Ah bah, ils ont pris la décision depuis la fin du Final 8, où il les a emmenés en demi-finale. Mais au club, ils n'en peuvent plus de ses méthodes, de sa com et tout ça.
Donc ça veut dire que Juninho reprend la main.
Ah, je ne sais pas qui reprend la main, si c'est Juninho, si c'est Chéron.
En étant sur le banc, hein, mais c'est...
Oui, mais il avait un peu perdu du crédit avec Silvinho, donc... Je suis pas sûr que Rudy Garcia ça soit son choix. Je pense que c'était plutôt celui de Gérard Houllier. Donc voilà, lui, il sera plus là bientôt. Donc le mercato dans un mois, c'est peut-être plus la même équipe. Lille, bah, Galtier, il y a un nouvel actionnaire à Lille. Là, pour l'instant, ça ne fait pas de soubresaut. Ça, tout va bien, mais on verra. Et Marseille, on va peut-être en parler bientôt. Villas-Boas, il se tourélise. On sait très bien qu'il est là, mais il voulait pas rester. Donc dans 6 mois, pareil, il sera plus là. Et puis la force du mécanique, on a joué que 17 journées, la force mécanique du Paris Saint-Germain, de ses stars, de son banc, même malgré les blessures, ça reste un effectif de malade, ça reste, pour la Ligue 1, c'est surdimensionné. Ça ne me paraît plus possible, l'accident industriel de 2012.
Oui, à part que les données sont un peu différentes cette saison, parce que là où le PSG perdait, c'était souvent à Dijon, à Reims, un match en milieu de semaine contre avec une équipe de remplaçants. Et donc, jusqu'à présent, ça avait peu d'impact sur la course au titre. Là, cet automne, ils ont quand même perdu contre 3 de leurs adversaires directs. Ils ont perdu contre l'OM, ils ont perdu à Monaco et ils ont perdu contre Lyon, au cours d'un match d'ailleurs parfaitement maîtrisé par les Lyonnais. C'est la première fois que j'ai regardé.
Ils ont fait nul contre Lille. Ils ont battu un des gros.
Oui, et exactement.
Mais en étant bien meilleur face à Lille que face à Lyon.
Sur les 31 dernières confrontations avec ces 4 équipes qu'on évoque, lors des 4 dernières saisons, ils avaient perdu 3 fois. Là, en une saison, en un automne, ils ont perdu 3 fois. contre ses adversaires directs, face auxquels ils ne perdaient pas avant.
Donc je penchais pour la une possibilité.
Je pense que le PSG effectivement est plus fragile que les années précédentes, et surtout que Lyon, n'ayant, Dominique l'a très bien dit, n'ayant que le championnat à jouer, ils vont être à fond tous les week-ends, là où le PSG va devoir, je pense qu'ils ont le potentiel avec
un positionnement clair, net et
précis. Clairement oui, avec le Aouar qui est excellent, avec Depay qui restera ou pas, mais avec le banc qu'ils ont, oui, je crois que Lyon peut le faire.
Bon, là, deux Lyon, un Paris. David Ayello, c'est vous qui avez tranché.
Moi, je pense que Paris est également en difficulté. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Je vais ajouter peut-être un paramètre. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un paradigme un petit peu qui a changé. C'est que les adversaires du Paris Saint-Germain regardent l'équipe parisienne d'un autre œil, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'avant, c'était bon, de toute façon, on va essayer de ne pas en prendre quatre et on sera bien content si ça se passe comme ça. Là, on a vu que ça soit les gros, mais même les moyens, voire les petits, se disent cette année, bon, on sent qu'ils sont rincés. Il y a quelque chose à faire. Donc j'ai l'impression que l'approche des adversaires est différente. Et j'ai l'impression que voilà, c'est plus qu'une impression, c'est que ça se traduit dans les chiffres. Les adversaires bousculent beaucoup plus le Paris Saint-Germain. Donc je pense que Paris va avoir beaucoup plus de mal. Et puis évidemment, l'autre paramètre.
Mais parmi les trois, vous voyez qui
Je vois plus Lyon, parce qu'effectivement, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe. Et puis un effectif sans doute le plus riche, l'équipe qui a dégagé peut-être le plus de certitudes sur les dernières semaines, que ce soit dans le jeu et les résultats. Donc je vois Lyon un petit peu plus difficile.
Ouais. Lionel, hein. Je vois que par Dominique Cévrac, tout le monde.
Le meilleur entraîneur pour moi des concurrents, c'est quand même Galtier à Lille. Donc si jamais Paris n'est pas champion, je vois Lille.
Ouais. Si évidemment, comme l'a dit Olivier Létang, qui vient d'arriver à la tête de ce club, à la nouvelle présidence, il n'y a pas de départ massif pendant le mercato hivernal, puisque là aussi, ça fait aussi partie de l'équation. Voilà pour le championnat. Un petit mot sur la Ligue des Champions. Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau vainqueur? Est-ce que le City, par exemple, qu'on attend depuis des années, ou le PSG, peuvent décrocher la timbale cette année?
C'est ça que vous appelez une surprise, du coup.
Pour moi, ce qui n'est pas une surprise, c'est le Bayern, le Real, Liverpool.
Ok.
Oui. Ce serait qu'une demi-surprise si c'est Manchester City, le PSG ou l'Atlético de Madrid. Je pense qu'ils ont quand même fait aussi deux finales au cours des cinq dernières années, l'Atlético de Madrid. Cette année, ils sont en tête de la Liga, ils ont un gros potentiel. Ça peut être aussi une équipe. Maintenant, une équipe comme l'Atalanta ou le RB Leipzig qui arriverait champion d'Europe, ce serait quand même la grosse cote. Oui.
Avec Coupa Mécano, ça serait quand même vraiment une grosse cote, hein, d'être champion d'Europe. Moi, je vois le Bayern. Et puis après, tout est ouvert. Paris peut battre Liverpool en finale de la Ligue des Champions. C'est pas le même Liverpool. Tout change à cause de la pandémie.
Le retour à cette équation classique, les matchs aller-retour jusqu'à la finale. L'événement d'un tournoi.
Le Real Madrid ne m'impressionne pas, Philippe. Ça peut être, c'est battable. C'est évidemment, c'est très fort. Benzema fait une de ses meilleures saisons. Mais je pense que sur deux matchs, Paris peut gagner. Je vous dis, à part le Bayern qui continue de m'impressionner, je trouve que Manchester City est prenable. Je trouve que Paris, évidemment, est prenable. Paris n'aspire pas à crainte en Ligue 1. Donc, en Europe, il y a des adversaires. Je crois pas
les saisons, tous ces grands clubs, quelque part, n'ont pas encore totalement commencé.
Ouais, c'est là où c'est difficile de s'avancer. Sur le retour à la formule classique, du coup, le constat qu'on peut faire quand même, c'est que tous les gros sont dans la position favorable, c'est-à-dire qu'ils sont premiers à part le Barça, donc ils vont recevoir au match retour sur les huitièmes. Donc il y a une lecture plutôt classique qui s'opère, mais c'est vrai que là, sur ce qu'on voit actuellement, après cette première partie de saison où beaucoup de clubs ont eu énormément de blessés, je trouve que c'est quand même difficile de se projeter. Enfin, moi, je dirais, je vois pas de surprise. Si tant est qu'effectivement, si on accepte le fait que Paris et City font partie des favoris au titre également. Quoi. Donc,
outsider, on va dire.
Oui, non, mais pour moi, ça va. Allez, sur les six meilleures équipes, le vainqueur, il est là-dedans. Ouais. Je vois pas.
Quand je vois qu'en Angleterre, Man United, qui n'est même pas qualifié en Ligue des Champions, est déjà en tête, a rejoint Liverpool en tête. Je me dis, voilà, les hiérarchies sont mouvantes quand même.
Ouais,
mais c'est sorti de la Ligue des Champions.
C'est pas la même chose, parce que le championnat, c'est un effet correcteur plus fort. Quoi.
Tu te dis quand même qu'avec ce système de match aller-retour, les équipes un peu surprises, les Atalanta et compagnie, sur un match, ça pouvait le faire. On l'a vu au Final 8. Une petite équipe est arrivée en finale, le PSG. Enfin, je suis un peu taquin, mais il y a un peu de ça quand même. Sur une formule aller-retour, tu te dis, bon, ça va être les grands classiques. Et oublions pas un truc quand même, c'est que comme pour l'instant, on joue à huis clos, la notion de aller-retour est quand même assez limitée. L'impact d'être de recevoir au retour, si tu veux, quand il n'y a personne dans le stade, ça change pas énormément de trucs.
Quand tu vas en field, c'est pas mal aussi, s'il n'y a personne. T'as moins peur, quoi.
Oui, mais attends, je veux dire par là que du coup, premier, deuxième, ça veut dire qu'on va être sur des confrontations aller-retour et que généralement, sur deux matchs, quand même, les équipes
supérieures... Ouais, mais sur la gestion du match, c'est quand même Même si, alors, tu as raison, la dimension publique ne jouera pas, mais le fait de jouer le premier match à l'extérieur où tu peux gérer, et au deuxième match...
Franchement, maintenant, ça fait un an qu'ils jouent à huis clos, je pense qu'ils ont intégré ce truc, quoi, les footballeurs. Ils jouent dans des stades vides depuis un an.
Bah, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient vraiment intégré, parce que pour moi, une des raisons pour lesquelles aussi Paris est moins flamboyant en Ligue 1, c'est que les gars, des Neymar, des Mbappé jouaient dans les stades vides, et à un moment, je pense que ça les motive un petit peu moins. Tu peux dire ce que tu veux.
Cristiano Ronaldo, ça ne se voit pas, hein.
Bah ça, c'est vu en début de saison, t'es pas flamboyant, là ça revient, mais bon.
Non, mais je sais pas, tu penses vraiment que ça, psychologiquement ça joue? J'ai l'impression qu'il faut complètement abstraction, quoi.
Bah je sais pas, quand t'as un chanteur, si tu lui dis tu vas faire Bercy, mais c'est vite, je suis pas sûr que si, qu'il faut tendre.
Certains.
Il y a des scènes qui font aller plus que l'autre.
Certains font sale vite, même quand c'est ouvert. Hein.
Oui, c'est vrai.
Bon, messieurs, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve après pour terminer un petit peu ce tour d'horizon de l'agenda 2021. On va parler des sélections, on va parler de l'Euro qui va arriver. Est-ce que les cartes ont été redistribuées par cette année supplémentaire, ce report? Est-ce que l'équipe de France, par exemple, en sort plus fort ou moins forte? Est-ce que vous la voyez aller au bout, peut-être avec plus de certitude et de possibilité que ce n'était le cas en 2020? Vous êtes avec nous jusqu'à 20h. Restez bien, on est ensemble, on est content, on est heureux, on bouge pas.
RTL, on refait le match.
Philippe Sansfourche.
RTL, on refait le match.
Très bonne année à tous, on est ensemble jusqu'à 20h avec Xavier Barret, Dominique Sévrac, Florian Gazan et David Aiello. Les sélections, l'Euro, est-ce que l'équipe de France a plus de chances l'été prochain que l'été passé?
Ni plus ni moins, toujours favori pour moi.
Dominique Sévrac.
Pour moi, l'équipe de France, ça reste la meilleure sélection en Europe encore. L'Espagne peut-être se refait la cerise. L'Angleterre est à surveiller, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il y a des jeunes joueurs, une nouvelle génération. Donc peut-être
Portugal,
que l'Angleterre peut créer la grosse cote. Mais la France a montré sur deux matchs, un 0-0 au Stade de France et un 0 là-bas à Lisbonne, qu'elle pouvait dominer le Portugal, qui est l'autre qui va être le champion d'Europe, qui sera resté le plus longtemps champion d'Europe.
L'équipe de France à Lisbonne, elle a remis les pendules à l'heure, Florent Gazan ?
Oui, un petit peu. Mais enfin, bon, encore une fois, il faut attendre la vraie compétition. Je pense quand même que cette équipe portugaise est assez redoutable sur toutes les lignes. Elle me semble très complète. Donc, moi, je pense que les Portugais sont tout aussi favoris que les Français. Cette victoire, certes, psychologiquement, elle compte. Mais bon, je pense pas que quand on va arriver au mois de mai-juin, les Portugais diront, voilà, on a perdu
les Français. Ils sont dans notre groupe, donc on pourra les retrouver qu'en finale, a priori.
Oui, oui, il vaudrait mieux qu'on les élimine avant, parce qu'en finale, ça nous a pas trop réussi la dernière fois.
À chaque fois qu'il y a l'Euro, on rentre dans la boîte à souvenirs et on repioche souvent le Danemark 92. Ce schéma-là, il est plus possible.
C'est plus compliqué parce qu'en 92, il y avait 8 équipes. Donc, vous
gagnez. Et la Grèce en 2004. Hein.
Oui, ouais. Effectivement. Là encore, il y en avait que 16. Maintenant, il y a un tour de plus. Il y a un tour de plus, puisqu'il y a 24 équipes avec ces huitièmes de finale en plus. Donc, ça fait un match en plus. Donc, ça veut dire que les équipes qui ont. Les petits pays qui ont souvent des effectifs assez réduits, 14, 15 internationaux du niveau, il ne faut pas qu'ils aient trop de suspendus, pas trop de blessés pour arriver au bout des 7 matchs. Et c'est le format d'une Coupe du Monde aujourd'hui. Des 6 matchs. Des 7 matchs, un euro. Donc, forcément, ça favorise les grands pays.
Qui dit grand pays dit grande sélection, dit beaucoup de joueurs dans les grands clubs qui sortent aussi rincés de leur saison, non?
Oui, alors effectivement, mais aujourd'hui ils savent mieux gérer ce genre de situation. Il y a des périodes de préparation, bon, on va voir comment ça se goupille là, mais si le calendrier arrive à être tenu, les différents entraîneurs auront leurs joueurs en avance pour pouvoir préparer ce rendez-vous. Donc les Anglais, les Français, les Allemands sont un peu en dessous, mais les Espagnols, les Belges, faut pas les oublier, les Néerlandais aussi, ça fait 6-7 équipes, vous avez normalement déjà là tous les quarts de finalistes. Donc qu'il y a un outsider qui arrive à se glisser là-dedans, je vois pas trop qui actuellement. Une sélection scandinave, la Suède, le Danemark, peut-être, mais est-ce que ce serait vraiment une surprise parce qu'ils y arrivent régulièrement en 8e et en quart de finale?
Sur le format, Philippe, oui. Dans 6 mois, on ne sait pas comment le monde sera. On espère que ça va s'améliorer. On espère que les vaccins vont amener des bonnes nouvelles. Mais que l'UEFA ait maintenu son format éclaté sur 12 villes, ça me paraît complètement
très ambitieux.
Aberrant.
On peut imaginer qu'il y a aussi y a des plans B, des plans C, des plans D, non ?
Mais c'est aberrant au niveau sanitaire, déjà.
Pour moi, c'est aberrant. C'est aberrant qu'on ne regroupe pas les sélections dans une bulle sanitaire pendant un mois. Ils l'ont fait sur un Final 8 de Ligue des Champions avec 8 équipes. Avec combien d'équipes ?
8. 8, tu vois ça, 8.
Donc ça me paraît complètement sidérant, mais...
Après, quel pays peut le faire comme ça en un laps de temps si court? On sait, on sait qu'il y a que les Allemands qui peuvent le faire.
La Russie peut le faire.
L'Angleterre. Je trouve que ce que vous avez dit, Philippe, sur le, finalement sur l'enchaînement des matchs, est assez intéressant parce que j'étais en train de me dire, mais j'ai beau chercher des signaux d'alerte un peu pour l'équipe de France et puis de manière générale pour les grandes nations pour me dire, mais qu'est-ce qui pourrait faire que bah, finalement, il est peut-être là, effectivement, le signal d'alerte, notamment pour l'équipe de France, parce que on se souvient de la phrase de Kylian Mbappé qui disait qu'il avait la sensation d'enchaîner en fait de ses que là c'était pas une nouvelle saison comme c'est le cas habituellement mais qu'il était sur une deuxième saison. On l'a dit tout à l'heure, la trêve pour les joueurs français va durer que 10 jours aura duré que 10 jours au mieux, donc il est quand même pas dit que vers le mois de mai, fin mai ou début juin, nos joueurs français qui ont été engagés dans les compétitions internationales soient pas complètement lessivés.
Après, donc, on a une chance, c'est que beaucoup des titulaires de l'équipe de France ne sont pas titulaires en club, donc ils arriveraient fois. Non, mais c'est une réalité quand même du foot français aujourd'hui.
Vous êtes pour que Pogba, Griezmann, Giroud restent sur le banc jusqu'à la fin de saison.
Qu'on a eu un restart, qu'on n'a quasiment pas eu de trêve cet été, qui renchaînent sur une autre saison, qui ont un Boxing Day et qui vont arriver à l'Euro quasiment en juin depuis un an.
Oui, non, mais ça peut se niveler.
Pas sûr.
Non, mais peut-être que d'autres équipes sont dans le même cas de figure, mais. Comme je le disais, moi, à la base, comme tu l'as dit en préambule, l'équipe de France, je vois que des signaux verts. Je me dis juste, là où on peut être inquiet, c'est si effectivement il y a des cadres, notamment de cette colonne vertébrale de l'équipe de France, qui venaient à se blesser, évidemment, on ne leur souhaite pas, quoi, du fait de cet enchaînement des deux saisons.
Et même Ousmane Dembélé, qui était forfait pour l'Euro 2020, qui pour l'instant peut le jouer, parce que là, il ne s'est toujours pas blessé, donc c'est quand même la bonne nouvelle.
Oh, tu peux lui faire confiance.
On croise les doigts. C'est pas bien.
Non, c'est vrai.
On croise les doigts pour cette équipe de France. J'aimerais qu'on parle qu'on revienne à notre bon vieux championnat de France et aux déclarations d'André Villas-Boas, qui, dans la presse portugaise, il n'est pas allé de main morte. Alors, ce sont des propos qui sont posés, sensés, c'est pas sous le coup de la colère, mais c'est une vraie remise en question du fonctionnement de l'OM. Je vous sors deux, trois petits extraits comme ça. L'OM est la meilleure marque de foot français, elle devrait être mieux positionnée médiatiquement et profiter de la puissance de sa marque, mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de vision de communication pour le club. Ce n'est pas la priorité actuelle de la direction qui met toute son énergie pour donner un rendement immédiat à l'équipe et pour la pérennité financière du club face à la UEFA et au fair play financier. Donc ça, c'est du bon sens, mais c'est quand même une remise en question. Et puis, le point institutionnel est important. Dans mon parcours à l'OM, il y a beaucoup de situations où il aurait été important d'avoir une référence, de savoir exactement ce que veut celui qui commande, le chemin à suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui commande à l'OM et que
Thomas Tuchel
s'est livré à lui-même.
Mais c'était sans doute du off, a dit « Je me suis demandé si j'étais ministre des Sports en arrivant au PSG ». Quel que soit, alors des fois, ces entraîneurs, quand même, ils pointent du doigt le fait qu'ils sont dans des structures qui ne sont pas professionnelles ou pas assez professionnelles. Ils sont en train de dire, Villas-Boas et Tuchel, le Paris Saint-Germain et l'OM, qui sont pour moi les deux plus grandes marques du foot français. J'adore Saint-Etienne, j'adore Lens, mais bon, pour moi, c'est les deux clubs les plus importants en France. Est-ce que ce ne sont pas des clubs assez professionnels? Ça m'interroge. Il faut toujours écouter l'avis des entraîneurs étrangers qui viennent, qui apportent leur œil. C'est des entraîneurs qui sont passés par Dortmund, par Chelsea, par le Zénith. C'est quand même, voilà, ils ont un peu voyagé. Je trouve que le constat est sévère pour la Ligue 1 et pour le foot français. Et sévère, mais peut-être juste. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de remise en cause de la part des dirigeants. Parce que là, ils stigmatisent un petit peu les.
C'est pas un peu donneur de leçon?
Sévère pour ces deux clubs.
Les PowerPoint de Jacques-Henri Hérault, c'est pas sérieux.
Il ne donne pas l'impression d'être. André Villas-Boas, pour moi, c'est une faute professionnelle d'attaquer sa direction comme ça publiquement. Enfin, je veux dire, c'est.
Et quand je disais, il ne ferait pas une petite tourelle, il y a un peu le côté défiance en public.
On peut rien dire.
Si tu as quelque chose à dire, tu vas dans le bureau de ton président et tu lui dis. Enfin, en plus, sur le point qu'il évoque en premier, quand il dit il n'y a pas de plan de com, etc. Bon, bah, je suis désolé, s'il y en a, enfin, pour nous, on travaille avec l'OM au quotidien, ils ont un plan médiatique, de com, ils organisent. Alors, ça lui plaît peut-être pas, mais ils ont ça qui est. Enfin, ils sont structurés pour ça, ils ont même fait venir quelqu'un de récemment pour diriger tout ça. Donc, moi, sur la forme, ça m'embête énormément, surtout qu'encore une fois, ces problèmes avec Jacques Henri Hérault, il les a pointés il y a quelques mois. Au moment du départ d'Andoni Zubizarreta, et il a choisi de rester. Il sait très bien il découvre pas là au bout d'un an et demi que l'OM a des problèmes structurels. Si ça lui plaisait pas, fallait partir ou encore une fois aller voir Jacques-Henri Hérault ou faire le bilan à la fin. Mais là, en plein milieu comme ça, le dire publiquement,
peut-être qu'il lui a dit en face à face. à Jacques Henriero. Peut-être que ce qu'il dit là à la presse portugaise, il lui a dit.
Bah, il le garde. Bah, ouais, mais Dominique, bien, ça reste dans le bureau.
T'as bien vu quand même que depuis raison. Quelques mois, Villas-Boas ne cite que Franck McCourt. Il parle même plus de Jacques Henriero. Pour lui, il n'existe pas. Et je pense que quelque part, dans ces cas-là, il peut directement référer. Il y a quand même un actionnaire fort à Marseille, même s'il n'est pas là, il existe. Franck McCourt, il a mis ses 200 millions. Pour l'instant, il a tenu la barque. Donc voilà, tu peux y aller. Après, moi, ce que je comprends pas avec Villas-Boas, c'est l'impression qu'il y a eu c'est Dr Jekyll et Mister Hyde. On a eu Villas la première année, super cool, communication transparente, sympa avec les journalistes, très honnête, très cash, etc. Et puis là, on a Boas, on a l'autre. C'est-à-dire que c'est la parano, c'est la faute des autres.
La
démago. On flatte le supporter. Donc il a complètement changé. Et tu te demandes s'il imite, il se dit pas. J'aurais quand même peut-être pas dû rester. Je suis resté, mais j'aurais peut-être pas dû. Et t'as l'impression qu'il est là et que finalement, bon, bah, c'est comme Tourelle, il sait qu'il partira ou il a décidé de partir. Donc, il a enroulé. Mais je trouve que c'est pas bon pour l'OM de faire ça parce que d'abord, en plus, cette année, encore une fois, le club a de bonnes chances de faire de bonnes choses en championnat et peut-être même de redécrocher une qualification en Ligue des Champions. Pourquoi pas être champion? On verra. C'est vraiment dommage.
Mais vous arrêtez sur la fin, mais vous voulez pas vous interroger sur ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
Mais ce qu'il dit n'est pas complètement vrai. C'est quoi la com de l'OM? C'est quoi la com de l'OM? Et quand il dit, on préfère.
J'ai pas compris ce passage-là sur le.
On préfère une vision à court terme. Mais quand il a voulu mettre 30 millions pour Benedetto, il était bien content qu'il y ait une vision à court terme aussi. Je vais recommander. Il faut être lucide et logique.
Et puis il parle de faiblesse de l'institution, mais en faisant ça, il fait quoi? Mais il la fragilise encore plus.
Est-ce que c'est pas aussi une manière, Xavier Barret, de jeter un voile un petit peu justement sur les résultats, sur le plan de la Coupe d'Europe qui va construire une communication sur un tel parcours sportif?
C'est ce que j'allais dire, parce que l'an dernier il était tout beau, tout le monde était content, admiratif, il arrive à avoir des résultats magnifiques. Manque de peau, là cet automne, ça fait une grosse tache sur son CV, qui est plutôt brillant d'ailleurs, d'AVB, d'avoir fait ce parcours aussi médiocre en Ligue des Champions. Donc du coup maintenant, qu'est-ce qui reste de lui, qui est un entraîneur qui se vend à l'international? Ah oui, mais vous avez fait combien? Un point ou deux ou trois en Ligue des Champions après un parcours tout à fait ridicule. Donc aujourd'hui, forcément, cette amertume, elle ressort de temps en temps, et elle ressort d'autant plus facilement quand il se confie à ses compatriotes, où là, effectivement, on l'a vu par le passé. Quand Unai Emery parlait aux journalistes espagnols, il disait des vérités qu'il n'osait pas dire en conférence de presse ici. Pareil avec Tourelle récemment, avec des confrères allemands. Donc,
enfin, il sait très bien que ça va revenir. Hein. À un moment donné, il n'y a pas le Schengen des médias. Hein.
Ça passe. Oui, mais à l'arrivée, le résultat, est-ce que ça le fragilise lui? Au pire, qu'est-ce qu'il risque lui? Il partira, il trouvera un autre club. Et ouais, il se lavera les mains de cette situation.
En termes d'unité du club également, je trouve ça terrible. C'est-à-dire que l'OM est plutôt dans une bonne position, etc. On sait qu'il y a Jacques Henriero et lui dans la tourmente après l'épisode là sur LinkedIn. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de lui remettre un coup. Je veux dire, l'unité du club, elle est malmenée.
On en profite d'ailleurs pour lui renouveler notre invitation. Jacques Henriero, hein, ça fait quelques temps.
Vous aimez la com.
Comment?
Vous aimez la com.
Ah, ouais.
Ah non, mais on a envie de le voir ici, confronté justement à votre bienveillance et à votre capacité d'analyse.
Faites-lui un PowerPoint. Envoyez-lui un PowerPoint.
Il viendra avec sa réponse. Hein.
C'est pas avec Raymond Domenech que ça arriverait, ça. Hein.
Ça veut dire quoi?
On va expliquer ça à nos auditeurs. En fait, Raymond Domenech, je vous ai bien écouté la semaine dernière, j'étais pas là, mais vous en avez quand même beaucoup parlé. Et je m'étais dit, on va peut-être faire une pause et tout. Mais non, en fait, à la demande générale, et notamment à la demande express de Dominique Sévrac, qui, comme on le sait, est le premier admirateur de Raymond Domenech, on voulait évoquer un petit peu aussi, et c'est une bonne idée, cette première à la Genolière, cet entraînement qui a été un petit peu perturbé par nos amis ultra de la Brigade Noire et consorts, avec le Kita Circus, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ils ont animé un petit peu l'entraînement avec des enceintes et avec une petite musique de cirque. C'était assez rigolo. Est-ce que c'est pas, tiens, la première illustration du fait que c'était une bonne idée de faire revenir Domenech? En fait, Nantes se retrouve instinctivement comme ça, de manière instantanée, sur le devant de la scène.
C'est triste pour Christian Gourcuff que ce soit Raymond Domenech, quand même l'apôtre du jeu le plus laid jamais proposé en équipe de France, qui soit son successeur, lui qui est quand même réputé pour son beau jeu. Non, j'ai regardé cette conférence de presse là, et 10 ans après, c'est on a attendu pour ça, quoi, en fait. 10 ans pour rien, quoi. Sans souffle.
Il n'a pas changé.
Il n'y avait aucune idée.
Il dit qu'il a changé, lui.
Il y avait 2-3 traits d'humour qui n'étaient pas très intéressants. il n'y avait pas de souffle.
Vous l'aimez bien, on sent que vous l'aimez bien, Dominique.
Ouais. Mais c'est une objectivité.
10 ans loin des micros pour nous pondre ça, il valait mieux rester chez soi, quoi.
Non, ça vous a pas convaincu, Florent Gazan ?
Moi, j'ai vu la conférence de presse. Franchement, j'ai trouvé plutôt tel qu'on le connaît. Après, le problème, il y a un tel décalage entre l'image qu'il a et la réalité du personnage pour ceux qui le côtoient un peu. On a cette chance, nous, à la chaîne L'Équipe. Et puis voilà, et puis il trimballe sur son dos, toujours ce boulet. Niceness est devenu un truc vraiment au-delà du réel. Donc, on le voit par ce prisme-là. Mais si on se décolle de ce truc-là, moi, j'ai vu quelqu'un arriver, voilà, avec toujours ce petit humour. Il faut qu'il fasse attention avec l'ironie. On sait que l'ironie passe pas forcément toujours très bien, mais on sent en tout cas qu'il a envie. Il est positivement là, il est venu pour se faire plaisir, il va reprendre cette équipe. On va voir encore une fois Domenech ou n'importe qui d'autre, ne le jugeons pas, laissons-lui quand même au moins la chance de voir, parce que tu me dis Gourcuff, la pote du beau jeu, enfin moi j'ai vu jouer Nantes cette année, la pote du beau jeu, ben voilà.
Il a prouvé quand même, non ?
Oui, il a prouvé, mais je veux dire par là, et avec Raymond Domenech, ça n'a pas été toujours non plus que du sale jeu. Il faut quand même
regarder. Il y a eu 0-0 avec Domenech.
Non, mais il faut voir toute sa carrière.
Pour sauver un club en Ligue 1, ce qu'il faut faire du Guardiola.
C'est l'entraîneur de la Coupe du Monde 2006, enfin ça jouait bien.
Non, mais
c'est,
il faut voir.
C'est aussi celle de 2010.
Oui, mais Dominique, il a aussi été entraîneur de club, il a fait monter Lyon.
Il y a 27 ans.
Oui, mais enfin, d'accord, tu peux pas dire que c'est un mauvais technicien, Raymond Domenech, c'est pas possible. À moins que tu l'aimes ou tu l'aimes pas.
Bah, c'est un formateur des entraîneurs.
Il faut lui donner du crédit.
Il est entraîneur en Ligue 1 depuis des années qui joue la défensive. Ça, c'est lui qui a formé les entraîneurs à la DTN. Et il y en a pas un qui joue l'offensive. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant des années? Je l'ai vu comme sélectionneur, ça a fini par le plus grand drame du football français, on parle de sport, hein, ouais. Avec une grève des joueurs, c'est pitoyable. Il revient 10 ans après, donc je me dis, bon, il a changé, ça va être sympa, il va y avoir quelque chose, une idée, un truc, mais il n'y a rien.
Donc, grâce au football défensif, on a été champion du monde en 98, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais Jacquet n'était pas non plus
Mais Jacquet a dit dans France Football que Domenech, ça suffisait. Il a dit ça au bout de 4 ans. Ouais. Il est resté 6 ans.
Moi qui suis un amoureux du FC Nantes depuis mon plus jeune âge, forcément je suis très perplexe devant cette situation, parce qu'on est très loin de Coco Ciodo et Reynald Denoëx avec Raymond Domenech, c'est certain. Maintenant, il fallait un personnage qui impose un petit peu une forme d'autorité, ou en tout cas qui soit capable de séduire les joueurs. Moi, comme dit Florian Gazan, j'ai eu l'occasion de pratiquer le Domenech dans différentes émissions. C'est un type, j'aurais préféré d'ailleurs, qui reste consultant, où il est très bon. Alors que c'est vrai que sur les terrains...
C'est un vrai compliment que vous lui faites.
Non, mais c'est vrai que je suis dans l'expectative. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus entraîné depuis tellement longtemps.
Et 27 ans, Claude. Voilà. Est-ce qu'on peut encore parler à des gamins de 18 ans quand ça fait 27 ans ? C'est ça, la vraie question, elle est là.
Tous les entraîneurs vous disent que les joueurs ont changé, que c'est plus comme avant, que c'est très compliqué de leur parler. Ils arrivent tous avec leur préparateur physique, leur préparateur mental, leur manager, leur machin. C'est des vraies petites entreprises. Il y a 10 ans, Dominique le rappelait, Nicena a été une cata. Aujourd'hui, il revient à Nantes. Il faut sauver le club de la relégation parce que les Canaris sont quand même menacés. Et je ne suis pas certain qu'il ait toutes les techniques en main, puisque ça fait trop longtemps qu'il n'a plus pratiqué.
Alors ça, c'est le vestiaire. Après, il y a les relations en interne au sein du club avec un sacré personnage, un sacré bonhomme qui est Valdemar Quitta. Est-ce que David Aiello, c'est pas justement une personnalité forte comme celle de Raymond Domenech qui peut rééquilibrer un petit peu les choses, au moins pour un temps, faire en sorte que Valdemar Quitta soit plus décideur à tous les échelons et même dans le vestiaire?
Ça va être sans doute son vrai défi. J'ai rencontré des personnes qui l'ont bien connu, qui ont travaillé avec lui dans son staff quand il était en équipe de France. Bon, il dressait un portrait, voilà, avec des points faibles et des points forts. Et parmi les points forts qui ressortaient, c'était sa capacité justement à emmener des gens avec lui, notamment, on disait, donc voilà, dans le staff, il avait réussi à embarquer tout le monde. Et c'était plutôt là-dessus où il était en termes de management, qu'il avait certaines qualités. Donc ça va être là-dessus ce qu'il va réussir à faire à l'intérieur du club, comment est-ce qu'il va être perçu, ça va être un vrai défi pour lui, et comment il va réussir à se positionner vis-à-vis de Quitta. Il a commencé déjà jeudi lors de son premier point presse, puisque à la question comment avez-vous joué, est-ce que vous en avez parlé avec Valdemar Quitta, il a dit, écoutez, chacun son domaine de compétences, le président préside et l'entraîneur entraîne. Donc il a commencé à placer ses pions.
On sent, David, que Quitta s'est dit, quitte à aller en Ligue 2 cette saison, j'ai envie que ça soit Domenech qui porte le mistigris, qui porte le chapeau, et pas moi, quoi. Je vais prendre l'entraîneur le plus décrié de France.
Donc tu penses qu'il l'a pris pour aller en Ligue 2. Donc
ça fait longtemps qu'il le voulait.
Quitte à aller en Ligue 2, dire que tu es en train d'insulter son intelligence.
Je pense que c'est quelqu'un de retort. Je pense que c'est quelqu'un de malin.
Enfin, son ambition, c'est quand même de sauver le club, c'est pas d'aller en Ligue 2.
Et donc il prend le mec qui a pas entraîné un club depuis 27 ans.
Bah, il lui trouve des qualités en tout cas.
Toi, tu penses ça?
Après, ils n'ont pas non plus déjà 10 points de retard sur le premier relégable, ils n'ont pas l'effectif le plus dramatique.
Il en Ligue 2, en tout cas.
Il s'est dit, il y a un risque d'aller en Ligue 2. Il y a un risque d'aller en Ligue 2. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de risque que Nantes. Il y a plus un risque pour Nantes que pour Paris Saint-Germain, quand même. Bon, il s'est dit, quitte à y aller, Kita,
y aller. Kita, y aller. Ouais.
Ça fait deux fois. Il
l'aime bien.
Elle est belle. On a eu raison, en tout cas, d'aborder ce thème, parce que ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Baptiste Durieux, Domenech, ça parle à nos auditeurs, toujours.
Je vais lire les messages que je peux lire à la radio. Message de William. Raymond Domenech, au lieu de faire le tour des stades de Ligue 1, devrait faire une tournée avec son one-man show. Aussi hilarant que sa conférence de presse, en première partie de Kev Adams, ce serait beau. Plus beau que le jeu qu'il propose et que le tacticien qu'il est. Puis message de Mathieu aussi, assez drôle. Si la seule volonté de Kita est qu'on parle de Nantes, c'est gagné. Mais qu'il aille jusqu'au bout en mettant, par exemple, Anelka en directeur sportif.
Ça fait toujours parler, en tout cas.
Ceci dit, l'arrivée de Domenech va peut-être apporter un peu d'argent à Nantes, parce qu'on peut imaginer que les chaînes de télé voudront plus souvent diffuser Nantes aux heures qui rapportent de l'argent. Mais ça crée aussi une attractivité. À un moment donné, ça aussi, c'est mine de rien pour les joueurs, savoir qu'ils sont entraîné par quelqu'un qui va être médiatiquement très suivi, ça va leur mettre une petite pression, ils vont être à nouveau vus, peut-être que ça peut les aider à sublimer plutôt qu'être dans l'ignorance et l'oubli le plus total. Ça peut jouer.
Alors messieurs, il nous reste à peine 10 minutes là pour terminer. Il y a la tradition, vous le savez, dans On fait le match, c'est les tirs au but. Là, il faut être réactif. Le premier qui dégaine, pas forcément gagné, parce qu'on verra après s'il a été pertinent, concluant, mais en tout cas, c'est celui qui prendra la main pour le tir du pénalty. On démarre. On l'a évoqué tout à l'heure, le trophée des champions PSG-OM dans 11 jours à Lens. Événement ou superflu ?
Superflu.
Ouh là là. David Ayello.
Événement ?
Non, pour moi, complètement superflu. Déjà que par essence, ce trophée, pour moi, en France, ne représente rien, contrairement à l'Angleterre. Enfin, je trouve que il ne pèse pas dans l'histoire du football français. Alors là, avec un trophée des champions qui a lieu en plein milieu de semaine, au mois de janvier, et à Lens, c'est-à-dire en tout cas sur terrain neutre, sans spectateurs, je vois même pas l'intérêt de cette rencontre. Enfin, moi, je l'aurais supprimé.
Événement
pour Florian Gazon.
Événement. Peut-être pas mondial, mais événement. Événement. Parce que c'est quand même un PSG-OM.
Intercosmique.
On peut dire ce qu'on veut. Cette année, l'OM a gagné au PSG. Ça ferait quand même tâche d'être battu deux fois la même année par les Marseillais pour les Parisiens. Surtout qu'il y aura un match retour au Vélodrome. Ce sera sans doute le premier gros match de Pochettino. Donc on a envie de savoir ce que ça va donner. Même si, il joue à Saint-Etienne mercredi. Donc il y a quand même plein de bonnes raisons de suivre ce trophée des champions. Après, c'est sûr que c'est un trophée dont on se moque un petit peu, mais cette rencontre-là, moi, j'ai déjà envie de la voir.
Dominique ?
Non, c'est plutôt Florian. C'est sympa. On réunit Paris-Marseille, les deux plus grandes marques, et à Lens, qui est une ville de foot formidable. C'est à huis clos, mais c'est quand même à Lens. C'est pas la Bourboule, quoi.
Il y a un très beau stade.
À Noël PSG, vous en aurez un le 7 février en championnat, dans un calendrier du PSG qui est déjà blindé.
Juste avant le déplacement à Barcelone.
Voilà, c'est donc totalement inutile, une année où le calendrier, donc on le sait, déjà encombré. Ce trophée des champions se déroule en France, puisqu'on ne peut pas le vendre à l'étranger. Et entre le champion de France et son dauphin, en fait, parce que le PSG ayant gagné la Coupe de France, le trophée des champions, théoriquement, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe, mais comme c'est le même, on le fait contre le dauphin.
Ça a souvent été le cas ces dernières années.
Ça a souvent été le cas, mais c'était l'occasion idéale de le suspendre.
Voir un but de Mbappé face à Mandanda, je ne goûte pas mon plaisir.
Bon, en tout cas, ça vous a fait parler, et les avis sont tranchés. Alors, Dany me fait savoir quand même dans le casque, et je sais que Christian Olivier sera très attentif à cela. Manifestement, le coup de sifflet n'a pas été totalement respecté. Attention.
C'est retiré.
Bien sûr.
Ils ont bougé
sur la ligne.
Et pour la prochaine, je vous annonce qu'il va falloir être un petit peu plus sérieux, messieurs. La Coupe de France, tiens, vous savez que là, au moment où on se parle, on devrait être dans un week-end Coupe de France, traditionnellement. Le premier week-end de janvier, l'entrée en lice des clubs professionnels, les petits poussets, les belles histoires, les pelouses pourries, tout ça. Ouais. C'est la Coupe de France. Soyez vraiment honnête, ça vous manque ou pas ?
Pas du tout.
Attention,
il n'a pas respecté le coup.
Attention au sifflet.
Cette fois-ci, ça va passer,
mais c'est la dernière. Dominique ?
Non, ça ne me manque pas du tout.
C'est vrai. Alors ça, c'est pas habituel, parce que non, généralement...
Il faut être honnête, ce n'est pas le... Il y a beaucoup de foot, déjà, et... Quand il y en a dans une année où il est devenu pénible de le regarder, honnêtement, parce qu'il y a plus, il manque l'ingrédient essentiel qui est les spectateurs, qui pour moi change toute la façon d'appréhender le foot. Ça n'est plus du tout un plaisir de regarder du foot. C'est un peu professionnel ou mécanique. Et je vais pas en plus me farcir le boucher de la Bourboule, j'ai rien contre la Bourboule, qui joue contre les stars.
Mais
de...
pas les Bouchers non plus.
Non, mais...
C'est une autre vision du foot. Vous ne regardez pas la Coupe de France comme la Ligue des Champions, évidemment, c'est autre chose.
Mais ça, non, franchement, bah. Là, non, ça ne me manque pas.
Ça vous plaît pas.
Non, parce que le stade de la Bourboule qui accueille le Paris Saint-Germain plein, ça peut être sympa, mais vide. C'est-à-dire que même le boucher qui est au gardien, sa belle-mère ne pourra pas venir le voir jouer, ça perd quand même de sa saveur. La Coupe de France, elle a aussi cette magie parce qu'on est sur des stades chauffés à blanc, parce que c'est toute une région qui se mobilise pour suivre une équipe. Là, c'est, voilà, ils seront seuls. Donc, voir une équipe de nationale face à une équipe de Ligue 1 dans un stade vide avec une pelouse pourrie de la neige, franchement, entre ça et un suicide, la question se pose.
Non, non, mais je suis pas du tout d'accord avec
eux. Xavier Barret.
Pas du tout d'accord avec
la vieille dame, là.
J'ai eu l'occasion.
Ah, tu es démago. Tu vas être démago.
Non, non, mais
tu vas être démago.
J'ai été commenté pour Eurosport ces dernières années, des premiers tours de Coupe de France à Avranches, à Saint-Lô.
Oui, mais il y avait du public, Xavier.
Mais il n'y a pas beaucoup de public, je t'assure.
Ouais,
dans ces stades, il y a 2000 ou 3000 personnes.
Et c'est génial.
Et ils sont loin d'être pleins.
C'est génial.
Donc, en revanche, pour la connexion entre le football amateur et le football professionnel, c'est quelque chose de fondamental. Le maintien du lien entre le football d'élite et le football de la base, le football d'en bas, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est heureux que la Coupe de France soit maintenue sous ce système un peu hybride actuellement, avec les amateurs qui vont continuer à jouer ensemble et qui rencontreront les professionnels.
On rappelle qu'elle n'est pas enterrée, hein, cette Coupe de France. Il y a un programme, normalement, si les choses vont bien.
C'est ça le lien entre le football d'en bas. Ça l'intéresse de jouer contre les amateurs de Jean-Sursaude.
Mais va dans les clubs amateurs.
Je préférerais que la Fédération française donne des vrais moyens.
Va dans les clubs
amateurs.
Moi, je te dis encore
une fois.
C'est
pas ça le lien, ça, c'est fake.
Tous les ans, les premiers tours de Coupe de France avec Eurosport, quand on va dans ces clubs amateurs, ils attendent ça. C'est pour eux la récompense.
Okay, mais il n'y a pas de lien.
Tous ces bénévoles,
qu'il y a un lien.
Ces bénévoles qui donnent leur temps pour faire les sandwichs,
okay,
etc.
Mais tu me parles de lien entre le foot d'en haut et le foot d'en bas.
Mais bien sûr qu'il y a un lien.
Il est fake, ce lien.
Parce que, non, parce
c'est
que
quoi
tu
le
vois,
rapport entre le PSG et les amateurs.
Parce que tu vois dans ces clubs amateurs des joueurs qui sont prêtés par les structures professionnelles, justement. Des gars qui sont un peu en marge du système. J'allais dire des Olivier Giroud et des Franck Ribéry qui n'ont pas eu des trajectoires clair, et ben qui se retrouve à ce moment-là dans un club de deuxième, de troisième, de quatrième.
Tout ce que tu dis est vrai.
De quatrième
mais y a pas
division.
De connexion.
Et qui ont ce match de Coupe de France qui parfois leur donne la chance de leur vie.
Tout ce que tu dis
donc
est vrai.
Il faut le maintenir absolument.
Oui, ce que tu dis est vrai, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de respect particulier du monde professionnel, tout ça c'est fake, c'est des bons sentiments qui dégoulinent.
Non,
Neymar s'en fout complètement de jouer contre des amateurs de Jean-Sursaude.
Va faire le premier tour de Coupe de France.
Ils s'en foutent complètement.
Va faire les premiers tours de Coupe de France.
Tu vois les choses négativement parce que si on prend.
Je vois les choses de manière réaliste. Je suis rattrapé par le réel, David.
Si on prend le prisme à l'envers, c'est-à-dire si tu te places du côté des joueurs amateurs cette fois-ci, tu sais très bien que pour eux, que de jouer contre des joueurs professionnels de Ligue 1, et je ne parle même pas du Paris Saint-Germain et ses superstars, c'est l'événement de leur vie. Et tu sais très bien également que au mois de juillet, parfois au mois de juin, quand commencent les premiers tours de Coupe de France, tous les joueurs des petits clubs ne pensent qu'à une chose, c'est se dire si seulement cette année on pouvait réaliser l'exploit et dans 6-7 matchs jouer contre un gros de Ligue 1. Donc ça, cette connexion, elle existe dans ce sens-là, que les pros, que certains pros, et en plus tu schématises en disant que Neymar représenterait l'ensemble des footballeurs professionnels, en tout cas pour les amateurs, c'est évidemment quelque chose.
En tout cas, on les salue, nos amis les amateurs qui en ce moment en bavent beaucoup.
Qu'on la joue, mais qu'on la télévise pas, parce que moi j'ai pas envie de voir ça.
Ou sinon, au détriment de certains matchs de Ligue 1, moi ça me dérangerait pas, tu vois.
Bon allez, on va en faire une petite dernière. Les élections, si tout se passe bien au mois de mars, les élections de la 3F. Noël Le Graët est-il toujours l'avenir du football français?
Non, pour moi, il a perdu la main, la question. Il s'est trompé de candidat à la Ligue. Il voulait Michel Denisot, c'est Vincent Labrune qui a été élu. Il nous a expliqué il n'y a pas très longtemps qu'il n'y avait pas de racisme dans le football. Il y a un arbitre roumain qui a eu un problème avec Dembaba, notamment, et Achille Webo. Dans la crise média pro, il y a un séisme dans le football français. Alors, c'est pas directement lui concerné, mais c'est le patron du football français. Je ne l'entends pas. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit sur la faillite de Mediapro, sur le fait qu'on ait choisi, sur le fait des responsabilités, sur, je n'ai pas entendu qu'il se mobilisait pour que le football français ait un nouveau diffuseur. Pour moi, il est un peu déconnecté des choses. Il reste l'équipe de France qui marche, mais ça, l'équipe de France, c'est Didier Deschamps, c'est pas lui, faut pas nous faire croire que c'est Noël Le Graët qui fait que les.
Il n'y a rien d'autre,
c'est lui qui l'a choisi quand même.
Oui, d'accord, mais
c'est
il
l'a choisi
en 2012,
à l'époque.
Ça fait 8 ans.
Oui,
donc
il
l'a pas voulu en 2004. Faut s'en souvenir.
Donc l'avenir, c'est Frédéric Thiriez.
Pardon? Là.
L'avenir, c'est Frédéric.
Ah, s'il peut nous remettre la Coupe de la Ligue.
Non, mais c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, il est resté très longtemps à la tête du football français, que ce soit à la Ligue ou à la Fédé, que peut-être que là, ça serait peut-être pas mal d'avoir un petit peu de sang frais. Il y a Marc Keller également qui est dans les cartons. Voilà, ce serait. ça serait pas mal, je pense, d'avoir un dirigeant un petit peu plus, dans le coup, quoi.
Marc Keller, l'avenir?
Bah, Marc Keller, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que Noël Le Graët, il y a un petit côté Bouteflika, quoi. On a l'impression qu'il sera président de la FFF jusqu'à 104 ans, quoi. Qu'il y a un moment, le foot change et il faut savoir laisser sa place. Ce serait même, je trouve, plutôt tout à son honneur de dire, bon, ok, j'ai marqué mon temps, je suis resté longtemps, j'ai fait de bonnes choses, voilà, l'équipe de France, etc. Passer un petit peu la main. Ou alors, s'il reste, ça devient la reine d'Angleterre et il nomme quelqu'un vraiment d'exécutif, vraiment, quoi.
Allez, très court, en 30 secondes, le dernier. Les vœux du président Macron et l'hommage appuyé à Wendy Renard. Justifié ou un brin démago ?
Totalement démago. Il fallait faire plaisir.
Dominique Sévrac.
Il fallait faire croire qu'on aime le foot féminin. Il fallait faire croire que. Voilà, il fallait cibler comme ça. J'ai pas très bien compris. Pour moi, c'est fait partie de la démagogie totale.
Bon, on va finir sur cette note.
Toi, c'est un calcul politique.
Voilà, on sait déjà que Dominique aura un redressement, en tout cas en 2021.
Je ne connais pas cette note.
Eh bien, merci en tout cas. On va remercier Baptiste Durieux pour les réseaux sociaux. Merci à Dany et son équipe à la réalisation. Merci Xavier Barret, Dominique Sévrac, Florian Gazan, David Aiello. Très bonne année à vous. Très bonne année à tous nos auditeurs. Merci de votre fidélité. Après les infos de 20h. Laurent Gérard, tiens, un ami, on le salue, invité de Laurent Boyer, c'est Fréquence Star sur RTL, et puis retour au sport demain avec un très beau rendez-vous noté à 19h30, on refait le sport avec Florent Manaudou, invité exceptionnel d'Isabelle Langer. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec le retour du taulier Christian Olivier, on le salue, on lui souhaite également une très bonne année, ainsi qu'à tout le service des sports qui est à votre disposition, à votre service, pour notre plus grand plaisir pour l'année 2021. À la semaine prochaine. Ciao.
RTL, on refait le match.